Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouvelle Porte. Cette semaine, on continue à explorer les curiosités, comme à chaque fois, on pousse de nouvelles portes. Et spécialement pour vous, nous avons Fanny. Fanny qui est une amie à moi, une anthropologue, qui va nous permettre de pousser des portes autant dans l'avenir que dans le passé. Pourquoi est-ce que l'anthropologie est fascinante? Parce que justement, en se servant de ce qu'on a déjà exploré du passé, on peut réussir à comprendre là où on est en train d'aller et on peut aussi interpréter ce qui se passe dans le présent. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que cette exploration, comme très souvent, part un petit peu dans tous les sens, mais globalement, le fil d'Ariane est suffisamment clair pour arriver à récupérer sur la route plein de petits cailloux qui vous permettront de construire votre propre chemin d'exploration. Encore merci à Fanny pour ce moment super sympa qui s'est passé pour le coup à la maison, comme quoi on peut arriver à créer des petits moments conviviaux comme ça. J'espère que vous passerez un bon moment. En tout cas, je vous laisse directement avec notre conversation. Donc Fanny, anthropologue, spécialement pour vous, vous verrez, elle est pleine de questions malgré le fait que, normalement, c'est moi qui dois les poser. Voilà, intéressant. Allez, je vous laisse découvrir. Bonjour Fanny et bienvenue dans mon appartement. Ce coup-là, je suis pas à sofa. C'était histoire de changer un petit peu et puis au moins il y a pas de bruit de fond, on est tranquille, on a bu du thé et tout va bien. Comment tu vas toi ?
Bah écoute, je vais très bien. Merci pour cette invitation dans ton appartement. C'est vrai que je suis un peu perdue de pas te voir à sofa, mais bon, je vais essayer de retrouver mes marques.
Et t'as vu, il y a des plantes aussi ici. Il y a des trucs. T'aimes bien mes plantes ? Elles sont belles ?
Elles sont belles. On voit qu'elles sont traitées avec amour.
Ah, c'est gentil. Bon, alors du coup, toi, dis-moi tout, Fanny, tu es anthropologue, c'est ça ?
Exactement.
Donne un peu de contexte sur toi, je sais pas.
Alors, je suis anthropologue parce que personne n'est parfait et que sur un malentendu, en fait, ça arrive. Donc, en fait, j'ai une double casquette. Je suis chercheur à l'Université de Lausanne, où je mène des études sur l'évolution de la consommation et des modes de vie. Et sinon, je fais des recherches anthropologiques pour des industriels. Quelles que soient les questions qui peuvent se poser, on va toujours essayer de leur apporter un éclairage anthropologique à travers trois thématiques clés, qui sont l'innovation, la consommation et la technologie. Et du coup, voilà.
Cool.
Oui.
Et moi, une question que je ne t'avais pas posée, même si on se connaît.
Oui.
Qu'est-ce qui t'a amené au tout départ, l'anthropologie ? Est-ce que c'était directement ça ou est-ce qu'il y a eu des rebonds d'idées quand tu étais plus jeune ou enfant ?
Non, ça a toujours été ça. Le plus loin que je me souvienne, parce que c'est souvent la question qu'on me pose, c'est j'avais un grand-père du côté de ma mère qui était un ancien résistant, qui avait beaucoup œuvré pour le vivre ensemble, pour la meilleure acceptation de l'autre, etc. Et depuis que j'étais enfant, il a eu vraiment la volonté de me sensibiliser au regard de l'autre, regard éloigné et à la diversité des cultures aux prises de l'unité de l'homme qui est vraiment un concept fondamental en anthropologie. Et en fait, il me gardait beaucoup et tous les mercredis après-midi, on regardait tous les documentaires sur les cultures traditionnelles ou sur les peuples d'ailleurs. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et comme j'ai une mère qui est psy, elle m'a dit, bah écoute, ça existe, ça s'appelle l'anthropologie. Et aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours voulu être anthropologue.
Et lui, du coup, il œuvrait comment pour le vivre ensemble et toutes ces choses-là. C'est à quelle époque, du coup
il... Seconde Guerre mondiale,
Seconde Guerre
il était
mondiale,
résistant.
Okay.
Il était à l'école de la Martinière à Lyon à l'époque. Il a tout planté pour aller sketcher dans le maquis et pour œuvrer pour la résistance. Et après, bon, il a repris sa vie. C'était un chef d'entreprise qui a pas mal fonctionné, mais il était très, très actif dans le domaine associatif et notamment pour la mémoire, pour sensibiliser les jeunes générations aux horreurs de la guerre et de comment pas retomber dans ce même phénomène-là. Et il est décédé à 90 ans, mais jusqu'à 87 ans, il faisait le tour des collèges de la région chaque année, où il faisait des conférences, où il expliquait son histoire et l'histoire de la résistance, et pour sensibiliser la nouvelle génération, quoi. Donc j'ai vraiment été élevée là-dedans.
Ouais, c'est peut-être super inspirant d'avoir un grand-père qui a fait cette aventure un peu, quelque part.
D'un côté, c'est inspirant, mais d'un autre côté, c'était pas la même époque. Après, je pense qu'il y avait des traits de caractère qui étaient similaires sur le côté un peu militant du quotidien et de se dire, effectivement, on vit en communauté, on vit tous ensemble, malgré nos différences. Donc, comment on arrive, en fonction des contextes, à trouver des solutions ou à regarder les choses différemment. Mais bon, après, c'était mon grand-père, c'était une personne de son époque qui avait aussi plein de travers, même sur la gestion de la différence. Mais bon, il a quand même eu ce combat à un moment donné, effectivement, qui laisse des traces dans la manière après d'éduquer ses enfants et puis du coup ses petits-enfants.
De toute façon, on a tous des paradoxes qui sont là, quoi.
Oui, t'es assez costaud niveau paradoxe.
Est-ce que tu as alors un sujet de curiosité? Comme ça, on attaque avec un petit sujet de curiosité.
Mais écoute,
faisons honneur à ta curiosité.
Donc en fait, le premier, je pense, et c'est celui qui va plus te plaire, c'est une réflexion que j'ai énormément en ce moment, soit quand je discute avec mon cercle d'amis, avec mon cercle pro, ou même avec d'autres professionnels, c'est l'illusion de la liberté qu'ont les personnes qui sont freelance ou entrepreneurs.
Ah oui, d'accord.
Donc t'en penses quoi, toi, de manière spontanée, quand je te dis ça?
Que je suis plutôt sensible à ta manière de le présenter.
Ouais.
Illusion de la liberté, je pense que c'est un vrai problème actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de... Oui, il y a beaucoup de gens que je croise qui se lancent et qui se disent... un peu comme l'Eldorado. Et on se dit, ouais, c'est bon, là, maintenant, je vais pouvoir être libre, je vais pouvoir gérer mon temps, je vais pouvoir pas forcément gagner beaucoup d'argent, mais bosser sur des trucs qui comptent, je vais apprendre à dire non, enfin, toutes les choses un peu qui sont importantes pour peut-être un humain, en fait, tout simplement. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui est forcément prêt à vivre comme ça. Et que donc, y a peut-être besoin d'avoir un cadre pour certaines personnes aussi, c'est peut-être nécessaire, qu'être complètement dans les abysses de moi-même, qui me gère moi-même d'un coup. C'est une grosse transition aussi, quand en plus t'as été salarié, peut-être, c'est un peu violent quoi.
Bah du coup, au-delà de ça, ce que j'observais, parce qu'il y a quelques années, j'avais beaucoup travaillé sur l'émergence du mouvement Uber, et sur l'organisation sociale du mouvement, et sur les trajectoires de vie des personnes qui travaillaient de cette manière-là, c'est de se dire qu'effectivement, il y a tous les éléments que tu dis, on peut gérer son temps, on n'a plus de patron, on a une apparente liberté, mais au final, pour pouvoir vivre ou même survivre, tu fais des horaires de malade, t'as pas forcément des métiers qui sont plus valorisants que ce que t'avais avant, tu perds ta protection sociale, ta protection médicale, pour la cotisation c'est compliqué, et au final on a l'impression que c'est un peu un miroir aux alouettes, où on a l'impression qu'effectivement on a accédé à tout ce qu'on avait envie, de liberté, d'indépendance, de valorisation sociale de la figure de l'entrepreneur, mais quand tu regardes objectivement, est-ce que c'est viable à long terme? Est-ce qu'ils sont plus heureux? Est-ce qu'ils gagnent plus? Est-ce qu'ils travaillent moins? Est-ce que leur ratio boulot qualité de vie a augmenté? J'en suis pas sûre. Et je trouve que c'est assez visible avec le mouvement Uber, parce que je suis sensible à ça, mais il représente un petit peu la quintessence de ce mouvement-là. Mais même nous, en tant qu'indépendants et en tant qu'experts, est-ce que vraiment c'est si cool que ça, quoi? Et c'est une vraie question en ce moment.
Ouais, je suis d'accord. Est-ce que c'est si cool que ça? D'ailleurs, c'est quand tu parles de Uber, tu vois, moi j'avais vu un article sur Deliveroo où du coup ils étaient en train de remettre en question le fait que c'était des indépendants, les livreurs Deliveroo. Ouais. Ils parlaient plus de salariat au final, quoi. C'est, tu travailles pour Deliveroo dans tous les cas, donc derrière, t'as pas les avantages, mais par contre, t'as les mêmes contraintes. Donc là, voire plus de contraintes. Et c'est vrai que c'est une vraie question, je suis d'accord avec toi. Après, moi la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas le système d'indépendant qui n'est pas encore construit. Vu qu'on est dans une phase un peu de transition, on va aller vers d'autres modèles en fait de travail et d'autres modèles de collaboration autour des métiers. Est-ce que c'est le système qui n'est pas encore prêt, quoi?
Mais c'est vrai que c'est une vraie question, parce que quand tu regardes, en fait, nous, dans les métiers créatifs ou du culturel, on a exactement le même mode de fonctionnement. Ce qui est plateforme, nous, ça va être les entreprises qui sont clients, et on va s'organiser en réseau pour pouvoir répondre à la demande, se passer des clients ou du coup faire évoluer nos idées. Donc effectivement, nous, on a le même modèle de fonctionnement, mais... Est-ce que du coup c'est déjà en train de s'institutionnaliser pour nous, ou alors est-ce qu'on est en train de devenir des salariés non salariés et précaires, tu vois?
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est vrai. Le problème que je vois aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'indépendants, dont moi pendant très longtemps, qui avaient une démarche d'être vraiment un prestataire en fait, tu vois. Et de me dire, bon ben voilà, je suis prestataire, j'ai des choses à apporter à d'autres personnes, et dans ce cas-là, je vais aller nourrir les projets des autres personnes. Et après, d'un côté, tu as les entrepreneurs qui, eux, sont, je vais monter ma start-up ou mon initiative, et là, je fais mon truc à moi, et dans ce cas-là, c'est mon truc à moi, tu vois. Et c'est encore très, très binaire, je trouve, c'est très, très marqué, quoi. L'entre-deux, peut-être qu'il y a ce dégradé en fait à créer aussi, quoi. Moi j'imaginais bien, la dernière fois j'ai discuté avec une personne qui était indépendante aussi, qui voulait se lancer sur la partie plus design, mais création, conception design. Et cette personne, quand elle me parlait, en fait, n'avait pas vraiment les compétences en termes de conception en elle-même. Mmh. Elle venait d'une boîte, elle avait été chef de projet. Là, elle disait, je me lance indépendante, ça veut dire que maintenant, il faut que je puisse tout faire. Et puis derrière, elle disait, oui, mais bon, en même temps, voilà, si je commence à avoir des clients, bah, va falloir aussi que peut-être moi, je monte ma boîte pour embaucher des personnes qui vont être les créatifs avec qui je vais bosser. T'en as d'autres qui vont se dire, bon, bah, faut que je monte un truc parce que là, je vais avoir besoin de faire bosser plein de freelance pour moi et tout. Et en fait, tout ce paradigme de la manière de travailler ne change pas, même si tu es dans une bulle qui, normalement, devrait être vraiment une bulle de liberté.
Ouais.
Du coup, je lui disais, bah, en fait, si toi, ton truc, c'est de faire de la gestion de projet, ce que tu peux faire, c'est que tu te positionnes à l'intermédiaire entre les entreprises qui ont des besoins et puis les freelances qui, eux, sont dans la conception et qui n'ont pas envie de se retrouver à faire de la gestion de projet. Et tu fais cette espèce de relais, en fait, et de tiers de confiance et de tiers de langage aussi pour que les gens arrivent à se comprendre. Ouais. Parce que le problème qu'il y a souvent aussi, c'est qu'il y a des indépendants qui n'ont pas du tout le langage entreprise. Donc, du coup, bah, ils n'arrivent pas trop à communiquer. Je prends souvent l'exemple du développeur qui a envie juste de développer et qui n'a pas forcément envie de se saouler à faire des réunions et discuter, quoi. Il y aurait quelqu'un qui ferait ça pour lui, ça serait bien. Donc en fait, il pourrait y avoir plein de postures, plus des postures que des métiers d'indépendants différentes, avec la posture où ils vont faire la gestion de projet, une posture qui est plus orientée, arrive à trouver des financements. Donc ça serait une posture commerciale, mais gérée un peu différemment. Et puis, puis plein de manières de se structurer aussi, quoi. Certains qui veulent faire un peu comme nous on peut faire, à être totalement indépendant, mais en même temps interdépendant, parce qu'on peut s'appeler quand on a besoin. D'autres qui peuvent se mettre en collectif, ils ont besoin de sentir un peu plus un effet de groupe. D'autres qui peuvent se mettre sur un fonctionnement plus d'écosystème type communauté, s'ils ont besoin de se sentir plus nombreux, un peu comme on peut voir avec WeShare, MakeSense, ou des sortes de groupements comme ça. Je pense qu'il y a plein de trucs à écrire, en fait. Limite, plein de trucs qui seraient à analyser ou à rentrer dans une démarche de conscientisation, en fait, de comment la société est en train de se restructurer par rapport à ça.
Parce que toi, du coup, tu te positionnes comment ? Au début, tu disais que tu étais dans une situation de prestation, de prestataire, et maintenant, du coup, tu te positionnes comment ? Dans cet écosystème, face aux clients ?
Je vais me retrouver beaucoup à avoir du temps pour bosser sur des choses qui viennent de moi, sans pour autant me dire que je vais construire des projets à moi qui vont devoir être rentabilisés derrière. Ça va plus être un hybride entre je vais bosser avec des clients pour gagner de l'argent, mais en essayant de le faire de la manière la plus efficiente possible, c'est-à-dire essayer d'avoir des clients qui sont sur des projets assez costauds.
Ouais.
Comme ça, du coup, ça me permet de récupérer pas mal d'argent en peu de temps.
Ouais. créatif capitaliste.
Voilà, exactement. Pour moi, c'est la transition créatif capitaliste. Mais au final, c'est pour se dire, pour optimiser le truc, en fait, quoi.
D'accord.
Optimiser cette partie. Il y a une partie capitaliste, du coup, on essaie de l'optimiser. Donc, on essaie de bosser avec des groupes un peu plus gros qui sont sur des problématiques plus complexes. Ouais. Et dans ce cas-là, boum, on peut poser des choses. Et puis après, ça sert aussi d'outils de recherche, d'outils d'analyse de comment la société est en train d'évoluer. Ces outils de recherche, ça permet de documenter. La documentation peut se faire après à côté avec le temps que j'ai disponible pour analyser d'autres types d'écosystèmes ou d'autres types de structuration, d'autres types d'humains, d'autres types de...
Et du coup, le temps que tu vas pouvoir ou que tu vas faire de la recherche, ça a vocation à quoi ? Vraiment pour toi, pour te faire plaisir, ou à être réinjecté soit dans d'autres supports, soit auprès d'autres clients après ? Ça a quoi cet objectif de recherche ?
Là, ça rejoint le sujet de la curiosité, tu vois, par exemple. C'est de se dire, faire de la recherche, c'est pour comprendre. Donc, c'est pour apporter des billes de connaissances qui peuvent être structurées de plein de manières différentes, mais surtout qui peuvent être partagées avec plein de gens différents.
D'accord.
Et par exemple, ce qu'on est en train de faire là, tu vois, c'est une manière de faire un jeu de billes de connaissances.
D'accord.
Et qui fera émerger peut-être une compréhension sur quelque chose d'autre qui, d'accord, pourrait être arrêté dans un document, et ainsi de suite, en fait. Et ça rejoint la logique du dialogue ou de la dialectique de Socrate, où tu vois, ce jeu de rebond, en fait, continue. Pour ça aussi que ça m'amuse de faire ces podcasts où normalement c'est moi qui pose des questions plus que l'inverse. Mais du coup, c'est rigolo. Non, mais c'est rigolo. Et parce que la discussion, c'est là où du coup on crée des nouvelles idées.
Oui.
Et c'est là où on crée de la compréhension aussi. Et du coup, Socrate disait, lui, que c'était l'un de ses outils pour arriver à la sagesse.
D'accord.
Juste avec la discussion. Tu savais toi ou pas ça ?
Non,
pas. Alors, j'ai une dernière petite histoire avec Socrate.
Allez, vas-y, dis-moi.
Non, c'était en fait, il avait fait justement une démonstration de sa dialectique en ayant une discussion avec un esclave qui n'avait jamais appris rien du tout des mathématiques ou de la logique des mathématiques. Et en fait, au fur et à mesure des questions, des échanges, en utilisant des analogies, des rebonds, quoi que ce soit, l'esclave s'est retrouvé à poser la définition du théorème de Pythagore.
D'accord.
Donc en fait, il y a une émergence de connaissances en allant creuser en fait, par la question. Comme quoi, ça c'est pareil, c'est du point de vue de Socrate, comme quoi en fait la connaissance est déjà là. C'est juste qu'on n'a pas encore connecté les bons points pour que ça puisse la faire émerger.
D'accord.
Et donc c'est très complexe parce que ça veut dire qu'il faut poser les bonnes questions, il faut avoir le bon contexte. Après, il y a plein d'autres principes que la dialectique pour faire émerger ça. Mais ouais, c'est un peu ça, tu vois, c'est un peu mon jeu actuel, c'est de me dire que la dialectique, c'est ce rebond-là, peut se faire par des discussions, peut se faire par des projets, peut se faire par de la documentation qui rebondit sur des projets, et c'est quasiment infini.
D'accord.
Et plus on fait ça, plus ça permet de comprendre comment le système fonctionne, et ça permet aussi du coup de rentrer dans l'action sur des choses qui sont là pour pouvoir peut-être le changer sur certains trucs qui vont pas. Donc voilà. Mais après, c'est une situation privilégiée que j'ai en ce moment, ça j'en suis conscient. J'ai réussi à trouver suffisamment de clients justement ressources qui m'apportent les ressources pour que je puisse vivre. Et du coup, maintenant que je suis dans une situation où je suis bien, bah, j'en profite pour essayer de créer autour de moi des situations aussi bien pour les autres.
Mm-hmm.
Chose qui peut être complètement égocentrée, parce que vu que tout fonctionne par cycle dans la vie, quand ça va se casser la gueule pour moi, si j'ai réussi à installer tout un écosystème autour de moi où les gens sont bien, bah, du coup, je me dis que ça permettra qu'ils prennent soin de moi.
Et puis,
donc, comme ça, tout ira bien.
Et puis, il y a aussi autre chose, c'est qu'on voit en anthropologie qu'il y a quand même des cycles de vie avec à chaque fois des étapes dans la vie qui vont effectivement te faire changer d'organisation. Et que là, tu es dans une étape de ta vie, mais quand, par exemple, je sais pas moi, tu vas avoir un enfant ou tu vas déménager pour X raison, tu seras dans d'autres projets, toute ta logique sociale va être organisée autour de toi, et ce qui est logique. Et ça se trouve, cet écosystème, soit tu vas vraiment partir et du coup c'est pas eux qui prendront soin de toi parce que t'en auras plus besoin et tu remonteras quelque chose de différent. Je suis désolée si je pose des questions.
Vas-y.
Du coup, sur la thématique que j'avais qui était l'illusion de la liberté, je comprends bien le modèle de fonctionnement et on a à peu près le même en se disant qu'effectivement on a un côté, on fait vraiment l'expertise, on fait de l'accompagnement, mais tout ça va être encapsulé, va s'englober dans une démarche qui est plus globale. On va avoir de la recherche, on va avoir des fonctionnements collaboratifs qui vont faire de nous la personne qu'on est et qui vont avoir aussi un impact de manière indirecte. Mais du coup, si on s'intéresse vraiment à cette partie un peu plus marchande et transactionnelle qu'on va avoir avec les clients qui va nous permettre d'avoir cette logique qui est possible, si on regarde de manière objective les entrées d'argent, le temps de travail, tous les avantages que pourrait avoir un salarié et qu'on n'a pas, est-ce que c'est vraiment une liberté d'avoir ce modèle organisationnel? Ou alors, si on était dans une boîte et qu'on organisait un poste de la même manière et où là on aurait tous les avantages du salariat, est-ce qu'on serait pas mieux? En fait, je pose cette question là parce que j'ai été, comme tu le sais, 3 ans au sein du groupe SEM et en fait je me rends compte que la structuration maintenant de mon modèle économique et de mon modèle professionnel et anthropologique est exactement le même que celui qu'on m'avait laissé monter chez SEM et qui tenait, qui était viable d'un point de vue économique, d'un point de vue systémique vis-à-vis des collaborateurs et du point de vue de la recherche. Donc au final j'ai déplacé un modèle dans une nouvelle manière de faire la société et de l'entrepreneuriat, même si on a l'impression que c'est plus vertueux juste sur la partie immergée de l'iceberg. Est-ce que là je suis très pragmatique, mais le trait de moi, la mutuelle, l'intéressement, la force du grand groupe de se dire bon, bah, quand on est malade ou quand on est fatigué, bah, ça roule quand même parce que c'est des machines de guerre. Est-ce que la liberté elle est vraiment là, tu vois?
Eh ben, je dirais que si on prenait l'état présent des choses, peut-être pas forcément, parce que c'est vrai que pour moi, les grosses structures, c'est eux qui détiennent encore la valeur.
Mmh.
Et que donc, du coup, ils peuvent se permettre d'avoir des tonnes d'accompagnements qui sont beaucoup plus intéressants que quand tu gères ta vie un peu tout seul.
Ouais.
Mais après, ça dépend aussi de tes besoins, quoi. Comme tu dis, j'ai pas d'enfant, donc du coup je réfléchis juste à ma santé à moi. Peut-être que si j'avais un enfant, du coup ça serait un peu différent.
Oui.
Ça c'est évident. Ce que je me dis aussi, c'est que dans un moyen terme ou long terme, on sait pas trop comment va aller notre société. Là, je ne rebouclerai pas trop sur tout ce qui est lié à l'effondrement ou quoi que ce soit.
Pas là.
Parce que ce n'est pas quelque chose qui me tracasse de manière stressante plus que ça. Et peut-être justement parce que je me dis, il y a possibilité de construire une nouvelle version du système dans lequel on est.
D'accord.
Et donc, si je reste dans les systèmes actuels, je vais me retrouver à être plus en confort maintenant, mais plus enfermé demain. Alors que si je commence à construire dès maintenant, à co-construire avec plein d'autres gens, dès maintenant, un autre système qui est basé sur d'autres types d'équilibre, d'autres types d'organisation, d'autres types de valeurs, alors dans ce cas-là, je suis en train de construire mon avenir en même temps que je suis en train de vivre le présent-là. Tu vois, c'est un peu ça le...
Mais du coup, si je pousse dans les retranchements ça, parce que je te rejoins totalement sur ce que tu dis. Par exemple, quand toi ou moi, on va faire de la gestion de projet, on va accompagner des clients sur une mission, si tu veux, on fait appel à notre réseau, on travaille en général un peu tous ensemble et c'est toujours le même modèle de fonctionnement. Et le client, même si il sait d'un point de vue intellectuel qu'on est tous des indépendants et qu'au final, c'est des liens invisibles, qui mettent en lien toutes ces personnes-là pour ce projet-là. En fait, on est tellement en train de reconstruire un système qui n'est pas forcément nouveau, mais qui prend toutes les bases en se disant OK, on va fonctionner comme si on était une agence, comme si on faisait de la gestion de projet hyper classique dans les grands groupes, mais au final, ça, c'est de l'illusion, c'est de l'invisible, c'est parce que juste, on est obligé de fonctionner comme ça pour pouvoir survivre. Donc, est-ce que ça, c'est de la liberté? Est-ce qu'on est en train de construire quelque chose de différent? Ou alors, est-ce qu'on ne reproduit pas les mêmes schéma en ayant l'illusion à échelle individuelle ou dans les cercles de pairs de cette liberté, mais au final c'est une liberté pour la survie et du coup liberté et survie c'est pas forcément
oui c'est pas forcément compatible
ouais.
J'ai l'impression qu'il y a un point qui est quand même différent par rapport à reproduire exactement les modèles, c'est d'un point de vue de la gouvernance en fait. Le fait de fonctionner de manière interdépendante tout en gardant sa singularité là-dedans, ça permet de faire en sorte que si jamais c'est moi qui initie un projet, les autres personnes sont des contributeurs à ce projet-là.
D'accord.
Et en quel cas, je définis les règles du jeu. Et si les personnes, ça les amuse de jouer avec moi avec ces règles du jeu, parce qu'on peut voir ça comme un jeu, jouer avec moi. Et si jamais elles n'ont plus envie de jouer avec ces règles, on peut en rediscuter et redéfinir les règles ensemble. Et tant que ça marche, on continue à avancer ensemble. Puis si jamais ça ne va plus, du coup, hop, chacun repart dans sa singularité. Ce qui fait qu'on évite tous les écueils qu'il peut y avoir sur des lancements d'initiatives, des lancements d'associations, des lancements de boîtes, où il faut qu'on arrive à définir les règles de comment on va fonctionner ensemble, qu'est-ce qu'on va faire comme type de projet, les valeurs, les principes, l'ADN, tout ce qui est établi normalement dans une organisation classique. Là, toi, tu as ton propre ADN, j'ai mon propre ADN. On va être compatible pour pouvoir discuter là aujourd'hui, on va être compatible peut-être pour bosser sur un projet... demain, quel que soit le projet, ça peut être un projet sociétal, un projet de recherche, un projet avec une boîte, un projet commercial. Peut-être qu'après-demain, on ne sera pas compatible, dans ce cas-là, on ne bossera pas ensemble. Mais ça n'apportera pas les complications de se dire on a quand même monté une boîte ensemble, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on arrive à tomber d'accord. Un peu comme quand au final on signe un espèce de contrat tacite et complètement virtuel quand on est en couple. À un moment donné, on dit à une personne, écoute, on est en couple. Ok, d'accord. Donc, dès le moment où tu te dis ça, ça veut dire qu'il y a des choses qui commencent à s'encapsuler dans un contrat en disant, maintenant qu'on est en couple, du coup, il faudrait quand même que peut-être que tu passes un peu plus de temps avec moi pour ci, tu fais des espèces de lignes. Et puis, si jamais à un moment donné, ça se passe mal, là, tu en as un des deux qui sort cette espèce de contrat en essayant de faire la vérification. Et limite, du coup, il faudrait presque des notaires pour. Il y a le mariage. Donc, du coup, après, il y a des notaires d'humains et qui font en sorte que ça.
Que ce soit bien acté.
Que ce soit bien acté. Et puis on valide ça quoi. Je suis pas forcément contre, mais je me dis que si jamais on arrive à instaurer une relation en fait de pair à pair qui est suffisamment sincère et transparente, alors dans ce cas-là tout est dit. Donc dès le moment où tout est dit, c'est soit ça avance ensemble, soit ça avance pas ensemble.
D'accord.
Tu vois, il y a pas de faux semblants, de choses comme ça. Pour rebondir sur la partie plus économique, parce que il y a certainement pas mal de personnes qui sont indépendantes aussi qui écoutent, ou même des personnes dans des boîtes qui se disent que ça peut être compliqué ou quoi. D'un point de vue purement économique, quand moi je j'ai la chance de pouvoir inviter des personnes à travailler avec moi, je ne prends pas un pourcentage par rapport au fait que j'ai apporté un projet. La personne bosse en collaboration et c'est elle qui facture ce qu'elle a facturé. Quand je ne peux pas bosser sur un projet parce que j'ai défini que là, j'avais trop de charges de travail, je vais donner le projet à quelqu'un, si personne ne veut bien le prendre. Ça me permet de faire en sorte de dynamiser tout l'écosystème qui est autour de moi, de participer à dynamiser l'écosystème autour de moi. Je ne prends pas non plus un pourcentage sur le truc qui lui arrive.
Et ça, je rebondis là-dessus, je trouve que c'est hyper important et je trouve que c'est assez illustratif de la scission en fait qu'il peut avoir dans le monde des indépendants, des freelancers, etc. Où effectivement, moi, je ne prends jamais aucune commission non plus quand je fais travailler des gens ou que je refourgue des missions parce qu'après... on est dans un système de pair à pair et soit on nous renvoie la balle ou si on ne la renvoie pas, et ben, il y aura d'autres intérêts ou sinon chacun continuera son chemin. Mais ce qu'on voit dans ce monde-là, c'est qu'il y a vraiment ceux qui font les commissions et qui sont un peu dans le mindset de l'ancien monde où effectivement ils sont en train de reproduire les règles des grosses boîtes dans lesquelles ils étaient. Ils se mettent indépendants parce que soit ils veulent gagner plus, soit ils supportent plus d'avoir un chef parce qu'ils ont aussi leur ego qui a augmenté et eux, ils prendront tout le temps des commissions ou s'ils en prennent pas, ils te le font tellement sentir qu'il aurait peut-être mieux fallu qu'ils prennent 3 ou 6% et qu'ils te foutent la paix. Et il y a les autres dans lesquels je pense qu'on fait partie comme la majorité de notre cercle où on se dit qu'effectivement nous on est en train de gérer, d'organiser un nouveau modèle qu'on construit au même rythme que nous quoi, au final. Et je trouve que ce pourcentage et cette com, c'est vraiment pour moi ce qui fait la scission entre l'ancien et le nouveau monde.
Exactement, ouais.
Quand on est en lien avec des prestats quoi.
C'est un sacré symbole, je trouve. Parce que dès le moment où moi j'ai choisi de complètement basculer, parce qu'au début je l'ai fait 2-3 fois en fait, tu vois, j'écoutais les conseils des avisés, des gens qui montent des entreprises ou qui ont une entreprise depuis plus de 10 ans, qui d'ailleurs au final souvent quand tu vas creuser un petit peu, ont eux aussi écouté les conseils avisés d'autres personnes avant, eux aussi écouté les conseils avisés, et qui au final personne n'a validé que les modèles étaient efficaces, parce que personne ne fait régulièrement des recherches en économie pour arriver à redéfinir des systèmes économiques, donc on écoute juste ce qu'on nous dit. Et ben, tu te rends compte que tu as ce vieux problème qui est lié aussi à la gouvernance. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est là et te dit « Bon, voilà, il faut que tu fasses tel boulot. Moi, je ne peux pas le faire. Du coup, je trouve quelqu'un qui devient mon prestataire au final, auquel je prends un pourcentage. Et bien entendu, je garde le contact direct avec le client. Et donc, ça veut dire qu'il faut que la personne bosse comme si c'était moi qui avais bossé. Donc, avec la même qualité de travail, avec les mêmes principes et les mêmes valeurs. Donc, du coup, cette personne doit bosser en s'alignant sur moi, comment je suis. Donc ça dénature tout de suite sa propre dynamique et il y a aussi le point de la diversité, je trouve, qui est important. C'était une discussion que j'avais avec une personne qui montait justement un collectif de freelance et qui voulait faire en sorte de fédérer un peu tout le monde avec des bootcamps en leur donnant des tips et des trucs comme ça. Je disais c'est cool de vouloir faire ça, de vouloir aider, mais sauf que c'est toi qui leur donnes des tips. Tu leur donnes tous les mêmes tips. Donc ça veut dire que ça va créer le même mindset pour tout le monde, la même manière de gérer son freelancing ou sa boîte. Et donc elle est où la diversité en fait? Et on vient sur ce qu'on disait par rapport à la dialectique, ça veut dire que tu peux plus avoir de dialogue en fait avec les personnes qui sont dans la même communauté que toi ou dans la même structure parce que tu tombes forcément d'accord. Donc comment tu fais pour faire évoluer ta structure si jamais tout le monde est d'accord? Donc ça coince. C'est pour ça que je suis bien content de ne jamais te dire quoi que ce soit quand on bosse ensemble. Je te dis Fanny viens et tu fais ce que Fanny sait faire mieux et voilà, et ça apporte de la diversité, c'est super quoi.
Non, c'est clair.
C'est un peu l'objet des podcasts aussi. Il y a beaucoup de podcasts, on en discutait dans le dernier podcast avec Alice, qui elle a une vision qui est beaucoup plus de présentation de la personne et de présentation du sujet. Donc c'est beaucoup plus cohérent de poser des questions qui sont un minimum préparées à l'avance et qui sont un minimum formatées ou cohérentes par rapport aux autres épisodes pour qu'on puisse avoir une structure d'écoute qui soit beaucoup plus simple. Parce que là, je renie pas le fait que écouter ce type de podcast est forcément plus complexe qu'écouter un podcast qui est plus structuré. Mais on se retrouve à limiter la diversité aussi de ce qui peut sortir, de ce qui peut venir. Quoi.
Ouais, c'est clair.
Peut-être perdre un bout de richesse au final, un bout de surprise aussi, parce que faut pas oublier que quand on bosse en tant qu'indépendant, pour ne pas justement être, comme tu disais, dans la non-liberté, faut aussi cette liberté de pouvoir être surpris et de pouvoir se surprendre soi-même. Et c'est là où c'est vivant, quoi. Si jamais on s'enferme dans des carcans trop confort, on perd cette vivacité, quoi.
Non, c'est sûr. Et il y a aussi un autre truc que je vois pour conserver du coup cette liberté, pour être dans une approche plus positive, c'est que je trouve que le freelancer ou l'indépendant ou l'entrepreneur, on l'appellera comme on veut, faut aussi qu'il accepte à un moment donné non pas de travailler pour rien, parce que souvent on voit des petites vidéos sur internet qui me font vraiment rire, où effectivement on essaye quand même souvent de nous la faire à l'envers en disant non mais franchement tu factures deux fois moins parce qu'après on va t'apporter plus de clients, etc. Il y a toujours une bonne raison pour essayer de moins payer le freelancer, surtout dans nos métiers, donc ça je suis contre bien évidemment parce que tout travail mérite salaire, mais à côté de ça je trouve qu'on doit aussi accepter de se dire qu'il y a une partie de notre temps qui sera pas forcément rémunérée directement, mais pour travailler soit sur des projets, soit sur de la recherche, soit sur plein d'éléments qui vont faire qu'à un moment donné on sera un individu qui sera complet d'un point de vue pro et perso. Et au-delà de la commission qui pour moi marque une scission entre les indépendants d'avant et ceux de maintenant, il y a aussi une deuxième scission entre ceux qui ne voudront jamais travailler sur quelque chose qui n'est pas facturé à la journée ou sur une mission et qui ne veulent pas du tout être dans la dynamique de projet. Et d'un point de vue anthropologique, le projet, c'est ça qui amène de la dynamique, c'est ça qui amène de la serendipity et plein de choses qui vont faire qu'à un moment donné, on aura une vision différente et qui amènera de la valeur ajoutée pour ses pairs comme pour, par extension pour les prestataires, quoi.
Exactement, je suis d'accord avec toi. C'est compliqué de s'arrêter à juste dire là je suis en train de travailler, du coup il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. Ouais. Bien entendu que quand on travaille et qu'on apporte de la valeur pour des personnes
pour qu'on soit payé
dans un monde capitaliste, ouais. Et ben du coup c'est de la valeur, elle est partagée, ouais. Nous, elle nous revient aussi. Mm-hmm. Ça, ok. Et après, j'y avais réfléchi. Mercredi dernier, on a fait une soirée sur le temps.
Oui, c'est vrai.
Je suis dans le jus, considération du temps. Donc, tu as parlé d'un point de vue anthropologique et moi, j'ai essayé d'apporter une vision plus simplifiée et puis plus opérationnelle en se disant, tiens, je vais essayer de vous offrir une heure de temps. Je ne sais pas du coup si ça marche encore, je n'ai pas eu de retour, mais je vais essayer d'offrir une heure de temps à tout le monde. Et je me disais... Le fait de faire des choses qui ne sont pas rémunérées, comme re-réfléchir la manière qu'on a de travailler, rencontrer certaines personnes avec lesquelles on peut collaborer, qui vont permettre de nous alléger sur une certaine partie et d'être plus complémentaires, ça fait quelque chose que normalement on met 3 heures à faire, on n'y met plus qu'une heure, que potentiellement apporte la même valeur, donc c'est facturé pareil, et il nous reste 2 heures qui flottent. Et ces 2 heures-là, on peut les utiliser à faire autre chose. Pareil, pour pouvoir arriver à réduire quelque chose où on met 3 heures de temps à 1 heure, il y a aussi le fait de potentiellement bien manger, bien dormir, être équilibré dans sa vie sur le plan physique, mental et tout le reste. Et tout ça, quand on est en train de le faire, on n'est pas payé pour.
Ouais.
Quand je vais faire de l'escalade, je ne suis pas payé pour faire de l'escalade.
Tu fais beaucoup d'escalade.
Je paye pour faire de l'escalade.
Je paye pour faire
du yoga. Je paye des bières quand je vais boire des coups avec les copains, parce que par la partie sociale. Et du coup, est-ce que du coup, je devrais demander à être rémunéré pour ça, parce que c'est censé être lié à mon activité professionnelle, vu que c'est de l'optimisation de mon travail, c'est de la R&D à la limite, tu vois. Ou est-ce que du coup, non. Et pour ça, je trouve ça intéressant d'essayer de généraliser les choses en fait qui nourrissent un projet. Après, j'en reviens sur ce que tu dis pour le projet. Il y a un projet, le projet à un instant donné, il y a tant de temps à y passer dessus, ça génère tel type de valeur. Mais en fait, tout le reste des choses que je fais dans ma vie, elles sont là pour nourrir ce projet. Et en même temps, ce projet, il nourrit aussi ma vie.
Non, mais totalement.
Donc en fait, ça n'est qu'un aller-retour entre des choses actives que je fais et des choses qui sont plus passives et ainsi de suite, quoi.
Et du coup, en fait, si on prend un peu plus de hauteur par rapport à tout ce qu'on s'est dit, l'illusion de cette liberté, en fait, c'est une croyance qu'on va avoir sur le monde et sur nous-mêmes, qui va engendrer des pratiques spécifiques d'un point de vue professionnel et social. Mais du coup, si on s'intéresse à cette croyance et à l'impact que ça va avoir d'un point de vue professionnel, on se rend compte en fait que c'est l'intersubjectivité. Et l'intersubjectivité, c'est quoi ? C'est la capacité à organiser le réel grâce à des entités irréelles. Donc, c'est avec la politique, ça va être le social, ça va être le travail, et c'est cette intersubjectivité qui va nous donner une illusion réelle ou non de la liberté. Et du coup, la question que je voudrais te poser, même si normalement c'est l'inverse, c'est de se dire effectivement, si on prend ce caractère d'intersubjectivité qui est un système cognitif propre à l'humain, qui va nous permettre de croire d'agir, d'être en situation de liberté ou pas. Pour toi, ce phénomène du croire, comment l'évolution des modes de vie, le fonctionnement plateforme, le fonctionnement collaboratif va impacter notre manière de croire au quotidien ? Parce qu'effectivement, on organise le réel, non seulement avec ce qu'on a dans la tête maintenant, mais avec les nouvelles solutions technologiques qui vont être à notre disposition et qui vont permettre de fluidifier ou de rendre possible des modèles de fonctionnement qui étaient beaucoup plus compliqués dans ce monde pré-numérique, quoi, au final.
Pas simple ton truc.
Ah bah écoute, hein, on est pas là pour coller des gommettes.
Hein. On parlait dialectique juste avant, donc très bien, comme ça moi ça me... le croire... Ce que tu voulais dire, c'était le côté je monte une boîte, du coup ça devient une entité.
Pas forcément.
Cette entité-là, elle me permet de faire des choses avec.
Exactement. Donc là, le phénomène de l'intersubjectivité et du croire va avoir un impact réel dans le quotidien, mais au-delà de ça, on a ce croire qui est impacté par le digital, parce qu'il y a 200, 300 ou 500 ans, si on aurait voulu faire la même chose, on n'aurait pas eu des applis de géolocalisation. Nous, on s'est quand même rencontrés via une application professionnelle de mise en lien via le digital. Si ouais, ça n'aurait pas été possible, parce qu'on ne sort pas forcément dans les mêmes endroits, etc. Mmh. Donc de se dire, est-ce que le croire, on a l'impression qu'on agit sur le réel, mais du coup, est-ce qu'il n'agit pas sur nous de manière différente avec l'impact direct ou indirect de la technologie ? C'est une grosse question que j'ai en ce moment. En fait.
J'imagine que c'est un aller-retour,
ouais,
dans le sens où on crée des entités, comme tu dis. Ces entités-là qui sont à la base des outils pour nous libérer un champ des possibles font le travail dans ce sens-là.
Et à
l'inverse, au fur et à mesure que c'est en train d'évoluer, ça finit par créer des nouveaux concepts qui nous enferment dans ces modèles-là et qui font qu'après on se retrouve à être limité par l'outil. Un peu comme dans le bouquin de Ivan Illich sur la convivialité. J'aime beaucoup ce bouquin. J'en ai parlé la dernière fois avec Grégoire, mais du coup, j'aime beaucoup ce bouquin. Où il explique dedans qu'il y a un moment donné, en fait, où quand on crée des choses et qu'on les fait évoluer, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter là où il y en a suffisamment. Et du coup, il prenait l'exemple de la vitesse de mobilité, la vitesse de déplacement. Jusqu'au 30 km/h, c'est une vitesse qui est conviviale.
D'accord.
Ça veut dire que ça permet d'aller suffisamment vite pour se déplacer suffisamment loin, que c'est agréable, que ça permet de le faire en vélo, faire plein de choses. Et dès le moment où tu passes les 30 km/h, là, à ce moment-là, tu crées des biais qui arrivent par la suite. Tu vas créer de la disparité sociale, tu vas créer un phénomène de caste, tu vas créer une réduction de la notion du temps, si on revient sur le temps. Ça dénature tout. Et là, c'est juste par la vitesse de déplacement qui va modifier tout ça. Et donc, la manière dont on crée des concepts, il faut savoir faire la part des choses et s'en arrêter en disant qu'il y a toujours manière à faire autrement ces concepts-là pour en créer d'autres. Tu voulais rebondir du coup aussi.
Ouais, parce que si tu veux, nous, d'un point de vue anthropologique, en fait, l'intersubjectivité, même si c'est une révolution cognitive, à la base, c'est ce qui a permis l'expansion de Sapiens, parce que ça a permis à des individus qui ne se connaissaient pas parler d'interconnaissance directe de s'organiser ensemble pour pouvoir survivre.
Ouais.
Parce qu'effectivement, le micro-groupe, il est très fragile, alors qu'un groupe étendu l'est beaucoup moins. Et du coup, on a l'impression, d'un point de vue intuitif, qu'effectivement, le digital et la technologie permet d'aller au-delà de l'intersubjectivité humaine pour pouvoir soit assurer une survie plus, soit pousser jusqu'au bout ce concept-là. Et toi, tu es en train de dire que du coup, à l'inverse, c'est en train de nous limiter.
Ben, je pense qu'il se passe les deux choses en même temps, dans le sens où, par exemple, tu utilises Instagram.
Ouais.
Les gens montent des business avec Instagram. Du coup, tu te limites avec les schémas que Instagram te propose pour pouvoir gérer ton business. Photos, textes courts, émojis, poster tout à telle fréquence. Ça modèle ton cerveau sur la manière de gérer un business avec ces codes-là. Donc après, demain, quand tu vas réfléchir, tu vas dire à quelqu'un comment tu montes un business, demain, tu vas lui donner les codes d'Instagram pour monter un business. Mmh. Alors qu'avant, c'était les codes de « je monte une SARL », où fallait gérer son pipe client, tous ces codes en fait, qu'il y a là, tu vois. Et à chaque type de plateforme ou à chaque type d'outil qui devient en final un modèle, et ben du coup ça modèle le cerveau sur ce fonctionnement là et donc s'il n'y a pas cette curiosité et cette balade entre différents types de modèles, on peut se retrouver en fait à définir que ce modèle c'est notre modèle de pensée et c'est comme ça que ça se passe quoi. Et du coup si on prend du recul comme tu disais, moi ce que ça m'évoque c'est Sapiens avait besoin de ce côté le terme que tu dis, je ne l'ai plus en tête,
intersubjectivité,
voilà. Il avait besoin d'intersubjectivité pour survivre. C'est ce qui fait qu'on est devenu ce qu'on est devenu et qu'on a complexifié tellement cette intersubjectivité que du coup on en est là. Peut-être que le dématérialisé va faire en sorte aussi, si jamais on est suffisamment vivace là-dedans et qu'on teste plein de modèles, à faire sauter cette intersubjectivité pour entrer dans un espèce de truc où on pourra être interconnecté de manière mentale avec tout le monde quasiment tout le temps et au final on sera intellectuellement mélangé avec tout le monde quasiment tout le temps. Ce qui est déjà un peu un sentiment que certains ont et que moi j'ai de temps en temps, c'est quand avec ton téléphone portable, si jamais tu as une question, tu poses directement la question à la personne qui a tendance à répondre très rapidement.
Oui.
Donc au final, c'est un peu comme si cette personne était déjà un peu dans ta tête. Si ce n'est pas cette personne qui est dans ta tête, c'est ta recherche sur Google, du coup c'est le réseau qui est dans ta tête. Et du coup, la personne, l'humain, l'autre humain, oui. se fond dans cette espèce de réseau. Donc on en perd la subjectivité de la personne.
Oui.
La personne devient limite comme un peu une ressource. On sait que telle question sur la musique, on doit la poser à telle personne, ou telle autre question sur le cinéma, on va aller y poser sur Allociné. Et là, du coup, ça dilue un peu les subjectivités et les individus. Peut-être que ça va servir au long de l'évolution à nous permettre de diluer notre propre subjectivité.
D'accord.
Dans le sens de je suis Fabrice, je suis un ego, qui je suis au final, est-ce que je suis mon mental, est-ce que je suis mon corps, est-ce que je suis une autre chose qui peut observer ces deux états-là, donc une sorte de conscience qui est un peu plus éloignée. Dans ce cas-là, si je m'éloigne et que je prends la posture de cette conscience, là je pars un peu perché, mais si je prends la posture de cette conscience qui est capable d'observer les pensées et d'observer le corps, ça veut dire que je suis quelque chose d'autre que ça. Et donc du coup je suis quoi? Et peut-être que cette conscience-là, en fin de compte, c'est juste une partie d'une conscience beaucoup plus globale. Donc, que ça soit par un usage très poussé du dématérialisé, du numérique, ou que ça soit par un retour à la connaissance de soi, par l'introspection, et peut-être une démarche plus de recherche spirituelle, je me dis que peut-être que les deux modes sont là pour faire en sorte qu'on reboucle sur la même chose, c'est que on rentre dans une autre conscience du groupe. Et qu'on ne se dise pas qu'on est des individus singuliers qui se retrouvent à être dans une intersingularité pour pouvoir survivre, mais qu'on soit plus à se dire je ne suis qu'une partie d'une grosse conscience qui est moi-même. Et ça, du coup, intellectuellement, c'est très difficile à interpréter. Enfin, moi, j'y arrive pas. Je ne sais pas si tu y arrives toi, mais se dire que voilà, ce gros tout, en fin de compte, c'est moi, et qu'en même temps, j'ai un point de vue de ce gros tout par là.
Par toi.
Voilà. Donc, la singularité, la subjectivité, ça saute un peu comme concept à ce niveau-là.
Mais du coup, c'est vachement intéressant et ça me fait penser, c'est très spirituel et c'est très judéo-chrétien et biblique ce que tu es en train de me raconter, mais du coup, ça me fait penser à, ça me fait penser à deux choses. La première, c'est une des théories du transhumanisme qui correspond, qui dit qu'on est un peu tous des transhumains parce que le téléphone peut être considéré comme une extension de nous, comme une extension du cerveau, comme une extension de nos usages. Et quand tu parles de ressources un petit peu, quand on veut avoir une info sur le ciné, c'est Allociné. Si tu veux demander un truc à une anthropologue, tu vas me demander à moi. Et au final, c'est un peu comme si on avait Internet, toute la connaissance digitale qui était en train de se décentraliser et de repartir dans une extension de l'humain où on serait déjà un petit peu tous transhumains. Et après, sur l'autre chose que tu me dis, où tu me dis que peut-être on fait partie d'une conscience un petit peu plus générale et qu'on est dans ces distinctions entre le corps et l'esprit, un petit peu comme le Christ. L'idée, c'est de se dire si on arrive via l'extension de l'être humain et via du transhumanisme, qui est vraiment la technologie et les pratiques, à avoir une conscience qui va être différente, déplacée, et qu'on revient vers un phénomène du croire, soit de transsubstantiation, soit de posture face au divin. Du coup, quelle est la place de Dieu dans tout ça? Quelle est la place des croyances? Est-ce qu'on est sur une spiritualité qui est diffuse? Est-ce qu'on a un nouveau rapport au Dieu ou à notre Dieu? Est-ce qu'on a des nouveaux dieux qui arrivent? Toi, t'en penses quoi de ça?
Qu'est-ce que je pense de ça? C'est génial, c'est interview inversée. C'est cool, c'est le principe. Hein, si tu... ça crée des rebonds dans tous les cas. Alors...
Sinon, il faut me poser des questions hyper
ouais.
hyper
bizarres. Mais je vais te demander ta deuxième curiosité juste après que j'ai répondu à ta question.
D'accord.
Sinon, ouais. Du coup, on va pouvoir basculer. Non, mais c'est très intéressant ton truc parce que c'est exactement ça.
C'est con parfois, Fanny.
Non, mais c'est dur. Mais je te parle, jamais. Mais c'est pas dur, c'est pas facile à expliquer. En gros, pour moi, tout ce qui se passe, soit sur numérique, soit sur les démarches plus spirituelles, essayer de renouer en fait avec cette notion de on est juste un point de vue
oui.
sur une réalité qui est nous-mêmes et qui du coup est complètement commun. Donc nous-mêmes ou le numérique au final pour moi en fait va disparaître. C'est pas le même délire que le transhumanisme où du coup on va tous se télécharger dans la machine ou quoi que ce soit. C'est qu'en fait c'est un outil qui est en train de nous faire évoluer d'un point de vue de conscience. Peut-être qu'on arrivera à une limite d'une certaine population, certaines personnes qui voudront carrément se dématérialiser et rentrer là-dedans, de mettre leur mental là-dedans. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est ça, c'est il n'y a pas mon ressenti là-dedans, il n'y a pas mes émotions, il y a mon mental, et c'est tout. Et du coup, c'est une extension de moi, mais que sur la partie intellectuelle.
C'est déjà énorme.
Et c'est déjà énorme, mais c'est qu'une petite partie de moi. Parce qu'il y a les sensations, il y a le ressenti. Quand je ressens de la joie, de la paix ou de l'amour, ça, je suis pas là-dedans, quoi. Et donc, peut-être il y en aura qui se seront trop, qui se seront trop rapprochés de leur mental, et qui du coup penseront que eux, c'est le mental. À ce moment-là, ils vont peut-être se télécharger. Et pour moi, ça serait comme être dans une prison. C'est une prison du mental, en fait. Ça va tourner en rond à l'infini et il n'y aura plus de ressenti, plus rien. C'est du robot clair et net, quoi. Et quand on arrivera à cette limite-là, il y aura un sursaut du cœur, un sursaut de cette intuition, ou un peu comme le dit Nico, donc un ami qui bosse dans tous les réseaux décentralisés dans les blockchains et dans l'intelligence artificielle aussi. Pour lui, c'est si tu arrives à mettre tout ton mental dans les outils du numérique et que du coup tu crées un détachement complet de ton mental parce qu'il sera là-dedans et il n'est plus dans toi, ça veut dire qu'il reste quoi dans toi, à l'extérieur? Il reste les sensations et la conscience. Et donc du coup, c'est une forme de méditation plus que de télécharger ton mental dans un outil dématérialisé numérique pour que ça puisse reconnecter sur « Ah putain, en fait, d'accord, je ne suis pas le mental, je ne suis pas tous ces concepts, je ne suis pas toutes ces constructions, ces projets, ces modèles, je suis juste un être. » Donc là, on en revient à la définition de être, en fait. Et voilà, quoi. Et du coup, j'aurais plus besoin après de ça. Parce que du coup, quand j'aurais reconnecté sur le fait que je suis juste un être, une conscience, et ben voilà, tu vois, c'est bon. Et si tout le monde fait ça, ben du coup, on est une conscience. Et on est sur un autre état de conscience complètement commun. Donc c'est ça l'évolution de l'humanité. Par l'intermédiaire des outils dématérialisés, nous-mêmes, on pourra devenir une autre forme de conscience.
Et du coup, cette nouvelle forme de conscience, elle a des dieux ou pas? Comment elle croit en quoi?
Cette nouvelle forme de conscience, là on rentre vraiment dans un grand délire spirituel, mais cette nouvelle forme de conscience, elle est Dieu. C'est l'être. L'être, elle est Dieu.
Donc si je suis ton modèle de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on toucherait dans cette période de transition à la fin des grandes religions du livre avec une figure suprême du Dieu et on reviendrait vers des religions plus anciennes, plus spirituelles, où on aurait une spiritualité qui serait diffuse à la fois dans les individus, à la fois dans les choses.
Je ne suis même pas certain qu'avec cette nouvelle état de conscience, en fait, il y aura encore une notion d'individu.
Il y aurait une notion
de conscience pleine, un peu ce que dans certaines traditions ils appellent l'éveil ou ils appellent quelque chose de complet, et qui au final se retrouve à être potentiellement comment dire, quand tu observes ce que tu es en train de penser, tu te poses sur une banquette, tu observes ce que tu es en train de penser, tu observes tes sensations, tu dis bon ben ok, si jamais je peux observer mon corps, ça veut dire que mon corps c'est pas moi, ok, j'observe mes pensées, je vois que je fais des espèces de boucles, je pense toujours à la même chose, c'est un peu relou et tout, c'est pas moi qui choisis de le faire, donc du coup c'est pas moi. Donc quand tu es dans cette position de conscience, là à ce moment-là, c'est quoi, tu vois? Et ça peut être plein de choses. Même le corps, au final, les informations que ton corps va te donner, quand tu te dis tiens, j'ai envie de manger ce bon petit plat, qui c'est qui est en train de te dire ça? Est-ce que c'est les bactéries de ton estomac, parce qu'elles sont connectées sur le système nerveux, donc elles nous le demandent? Est-ce que c'est le mental qui est en train de te le dire discrètement derrière? Est-ce que c'est une autre partie encore de ton corps? Est-ce que c'est tes cellules? Est-ce que c'est tes habitudes de ton ADN? Il y a plein de choses. Et en fait, toutes ces choses-là se mélangent. Et on donne une information qui peut être complexe, si jamais on arrive à rentrer dedans et à l'analyser, ou qui peut être très singulière de « tiens, j'ai envie de manger ce steak, j'ai envie de manger ce steak ». Et puis je ne me prends pas la tête à savoir qui c'est qui me demande ça. J'ai une envie, je suis l'envie, quoi. Et ben dans cette forme de conscience qui est complète, ça serait un peu la même chose, en fait. Ça serait que ça devient une sorte d'entité complète, qui est nourri par les différents points de vue, mais le tout est en interrelation totale, quoi. D'accord. Et donc d'un point de vue intellectuel, je peux pas l'imaginer. Et d'un point de vue linguistique, je pense pas que j'aurais les mots pour pouvoir l'exprimer. Mais ça, je pense que je vais pas m'en vouloir, parce que même ceux qui sont à fond là-dessus et qui ont écrit les bouquins, ils ont beaucoup de mal aussi à poser les mots. Donc, mais voilà. Après là, on rentre dans le champ d'une forme de croyance.
Ah bah bien sûr.
Parce que y a rien qui est démontrable scientifiquement, qui est aussi notre croyance. Donc au final, on est toujours dans la croyance.
Ah bah de toute façon, après, c'est ce qui fait l'humain.
On choisit ce qu'on a envie de croire.
Exactement. Voilà.
Moi, ça m'amuse pas mal cette évolution-là. Mais je verrais pas en fait trop autrement l'évolution de la vie. Parce que, je sais pas, au final, la plante, l'animal se déplace, l'humain se déplace, en même temps l'humain pense, du coup ça crée une autre sphère de réalité dans une sphère immatérielle, tu vois. Du coup, cette espèce de tension tout le temps à vouloir voler, je sais pas, tu vois, par exemple, d'un point de vue anthropologique, il doit y avoir des choses aussi là-dessus intéressantes, quoi. Vouloir voler, vouloir sortir de son corps, vouloir être complètement libre sans être limité par le physique, tu vois, cette tension en fait qu'il y a, potentiellement c'est une tension à quelque chose qui va advenir.
D'accord.
Mais qu'on n'a pas encore, on n'a pas fait le cheminement. Mais du coup, c'est ça qui est trop cool, c'est qu'il y a tout le cheminement à faire pour basculer sur cette forme-là, quoi. Voilà, je sais pas trop.
Mais j'ose plus poser des questions parce que c'est pas le but normalement.
Mais donc... si, tu peux y aller, vas-y. Vas-y, une dernière et après on bascule sur ton autre sujet de curiosité.
Tu vas pas être déçu.
Je vais pas être déçu, ouais, c'est d'accord.
non, mais en gros, l'idée de se dire, c'est qu'effectivement, je comprends ta vision qui est quand même européano-centrée,
judéo-chrétienne. Oh, je me doute bien, bien sûr, etc. Je suis dans des modèles aussi. Ouais.
Et c'est de se dire comment cette impulsion où t'es pas le seul, et effectivement, on voit d'un point de vue anthropologique qu'il y a un mouvement de fond qui est en train de se construire sur un rapport au monde holistique, sensible, spirituel, qui est de ce type-là. Comment va se passer cette période de transition avec ces religions qui sont instituées, ces religions du livre? On voit quand même qu'il y a beaucoup de guerres qui se passent, qu'il y a beaucoup de conflits, qu'elles soient interreligieux ou même dans les religions elles-mêmes. Comment ça va se passer cette transition? J'ai pas de réponse, hein.
Ouais.
La question de se dire entre ces grandes religions qui essayent aussi de réorganiser le monde et leur monde en fonction de textes plus ou moins dans une dimension interprétative ou hérétique. Comment est-ce qu'on n'est pas encore sur un choc entre Occident et non-Occident, entre déjà une évolution qui est en train de se faire et un modèle existant? Ou alors est-ce que ce modèle existant lui aussi va se réinventer, parce que toutes les grandes religions ont fonctionné par syncrétisme, adaptation à un contexte? Là, il n'y a pas de réponse, mais du coup, comment vont se rebattre les cartes des croyances?
Peut-être que ça rejoint ce qu'on était en train de se dire sur l'indépendant et les organisations et les entreprises. Il y a les grosses boîtes comme Facebook ou comme Google qui du coup deviennent des religions et qui au final éditent des textes et te disent que du coup tu vas être en interrelation constante avec tes collaborateurs et que ça va être la joie, la machin. Les religions au final se retrouvent à des organisations qui font la même chose, à modifier leur discours pour faire en sorte de garder les personnes à l'intérieur de leur bulle. Et puis à côté de ça, tu as des gens qui vont... être indépendants et qui vont se retrouver à monter des sectes. parce que du coup ils ont besoin de se retrouver dans une bulle, et puis après tu auras ceux qui vont ne pas se rentrer dans une bulle, comme les indépendants qu'on parlait tout à l'heure, qui sont plus en interrelation, et eux ils vont rester là à faire leur truc qui sera beaucoup plus en mouvement. Mais au final, quand tu dis que je suis très européano-centré, c'est vrai, parce que ma culture vient de là.
Mais moi, la première, on l'est tous.
Mais ce que je trouve fort, en fait, et là où j'ai un... Ça fait très Star Wars, mais à chaque fois, je fais l'analogie avec Star Wars, mais je trouve ça que c'est assez fou, quoi. C'est que tout ce qui infuse actuellement dans notre culture, dans nos évolutions de nos croyances, dans le rapport à la spiritualité, à l'ésotérisme et à tout ça... c'est des choses qui, pour moi, en fait, infusent depuis très longtemps, tranquillement, et qui vient de l'Orient, quoi. Quand tu remontes justement sur les Grecs, l'époque pré-socratique, juste avant Socrate, où là, ça fonctionnait beaucoup sur des mythes et sur des légendes. Tu vois de quels mythes et légendes ils sont imprégnés. Ben, c'est des choses qu'ils ont récupérées quand ils ont fait des voyages, quand ils sont allés du côté de l'Inde et qu'ils sont revenus. Donc, ils en ont récupéré des choses. Ça a infusé dans cette manière de penser. Après, ils l'ont rationalisé, parce que du coup, ça, c'est le propre même de nous occidentaux, c'est qu'on rationalise tout. Et du coup, après, on crée la logique, on crée les mathématiques, la science et tout le reste. Mais ça a infusé de là-bas. Et leur fonctionnement à eux, là-bas en Orient, c'était de mentor à élève. C'était une transmission qui était directe. C'était des textes qui étaient autobiographiques pour raconter des histoires, mais qui transmettaient pas de message spirituel dedans ou d'enseignement. Fallait trouver ton maître en fait pour avoir ton enseignement. Et on pourrait se dire, pourquoi ils ont pas fait une espèce de grosse bulle en se disant, on va faire un machin, on va écrire des textes, Non, en fait, ça se faisait à l'oral, ça se diffusait comme ça. C'était vraiment un enseignement. Et pour autant. Pas une grosse force de frappe de communication, et ça infuse petit à petit, 5000 ans après, 6000 ans après chez nous, tranquillement, ça s'installe dans les habitudes, dans les manières de penser, dans la conscience. Donc je trouve que c'est efficace, et que c'est comme Yoda qui était sur sa planète tout seul, et qu'au final, ça infuse aussi chez les rebelles, et ils finissent par gagner contre le côté obscur de la force.
Alors là, je pense que c'est le meilleur exemple dans toute la discussion qu'on a pu avoir.
Non, mais parce que, c'était pour le côté un peu effondrement de se dire, donc là, les religions, en fait, elles ont une grosse force de frappe, les entreprises ont une grosse force de frappe, du coup, ils vont devenir les nouveaux dieux, ils vont prendre le contrôle sur la planète, on va tous être obligés d'être dans une bulle et enfermés, ce qui pourrait être comme Dark Vador et l'Empire absolu, quoi, parce que c'est pas une violence physique ou une violence de guerre, mais c'est une violence psychologique et de manipulation, on rentre dans ton cerveau et on te dit que c'est trop cool. Et ça marche tous les jours, c'est très efficace. Mais à côté de ça, il reste quand même des Jedi et des Yoda qui sont là quelque part et qui continuent à faire infuser des choses qui vont pouvoir faire en sorte qu'on se retrouve pas à être enfermé là-dedans. J'ai bon espoir là-dessus. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas dans des bulles qu'on va trouver des Yoda, mais c'est dans ces rencontres comme ça, au quotidien, dans la surprise, dans l'observation de ce qui se passe, dans tous ces trucs-là, quoi.
Mais du coup, ce que je trouve super intéressant, c'est que le premier débat qui a animé notre conversation, c'était l'illusion ou non de la liberté dans le domaine des freelances. Donc le truc quand même hyper pragmatique, etc. Parce que quand tu interroges en fait la liberté, c'est une notion qui est différente en fonction des idéologies, en fonction des religions ou des politiques, etc. Et du coup, en partant de ce point de départ qui était le quotidien des freelances et l'évolution ou non des modèles économiques, en fait, on a réussi à reboucler le triptyque anthropologique qui est consommation, donc usage, parce qu'à un moment donné, c'est le modèle de fonctionnement, c'est ce qui est pragmatique. On a parlé des applis où on va consommer, la technologie, ou comment la technologie va avoir un impact sur nous et va faire aussi évoluer nos manières de travailler, et ces fameuses croyances qui vont conditionner notre rapport à la liberté et par extension au monde, parce que toutes les pratiques qu'on va avoir dans le quotidien vont aussi faire évoluer nos religions. Donc du coup, je suis contente de notre discussion.
C'est bon, parce qu'on regroupe sur ton triptyque anthropologique.
Exactement. Ça va.
Et du coup là tu viens de me faire flipper avec ce que tu viens de dire, tu vois.
Pourquoi?
parce que non c'est pas flipper, mais quand on parle de liberté, encore une fois, si jamais sur une discussion complètement ouverte comme celle-là on se retrouve à reboucler sur un modèle anthropologique, ça veut dire que notre cerveau dans tous les cas se retrouve à n'être pas forcément libre de pouvoir partir dans n'importe quel sens.
On est libre de rien, on a l'illusion de la liberté.
Non mais voilà, là on touche au point qui est intéressant. C'est que de ton point de vue à toi, et du coup comme ça je peux te poser moi la question, la liberté oui. est définitivement une illusion.
Ah écoute, en fonction de tout ce qu'on s'est dit, et d'un point de vue anthropologique, oui, l'illusion est une liberté qui va dépendre d'un certain nombre de facteurs psychologiques, sociologiques,
culturels. La liberté est une illusion,
culturelle.
Tu veux dire.
Ouais. Ouais, d'accord. Je dis quoi ?
L'illusion est une liberté. Mais c'est intéressant ceci.
Oui, ça marche dans les deux sens. C'est de se dire qu'effectivement, cette liberté, elle n'est pas une illusion pour l'individu qui la vit, mais par contre, d'un point de vue théorique, elle l'est. Parce que cette liberté, elle est conditionnée, comme je disais, par des événements contextuels, sociologiques, culturels, économiques, religieux, idéologiques, qui vont faire qu'effectivement chaque individu aura un cadre qui identifiera la liberté, soit il sera dedans, soit il ne sera pas dedans. Mais au final, la liberté pour Pierre, Paul ou Jacques en France n'est pas la même que pour un Afghan, ou n'est pas la même que pour un individu il y a 500 ans. Donc oui, la liberté est une illusion, et c'est de se dire que le contexte qu'on est en train de créer et le contexte qui est en train de se créer face à tout ce qui se passe d'un point de vue macro-social est en train de faire évoluer le cercle et le périmètre de cette liberté, et du coup nous on est dans une illusion, mais est-ce qu'on va être du bon côté ou pas, et ça c'est la question.
Ouais, bien sûr. Et c'est là où du coup moi ça me fait penser à la neuroergonomie que parlait Idriss Aberkane. J'ai lu son bouquin, voilà. Mmh. Je suis pas forcément ultra fan du personnage, mais il dit des trucs qui sont assez intéressants. Il a des raccords de ressources qui sont assez cool. Et la neuroergonomie, ce qui est cool, c'est que c'est le principe de faire en sorte de fluidifier la manière dont ça se passe dans ta tête. Mmh. Comme le fait que si jamais tu arrives à te déplacer facilement avec ton corps, que à chaque fois que tu t'assois, t'es bien. À chaque fois que tu veux te déplacer dehors, ça se passe bien. Mais la journée, elle est tranquille.
Ouais.
Mais le côté tranquille physiquement, tu vois, et là où du coup tu peux vraiment être tranquille, c'est quand dans ta tête ça déroule d'une manière fluide, sinon tu te retrouves avec des frictions constantes avec ton mental qui t'apporte une peur, un doute, un truc qui coince, machin, ça va mal, puis ton pied te fait mal, puis ton coude. Là, la vie est quand même beaucoup moins agréable et tu ressens beaucoup moins une espèce de fluidité ou de liberté. Parce que après, ça dépend, ouais, comme tu dis, le concept qu'on met sur liberté, mais moi, la notion de fluidité, en fait, elle me parle beaucoup liée à la liberté. Et le fait d'être indépendant, et le fait d'être de plus en plus, quelque part, indépendant vis-à-vis de concepts ou de modèles préconçus, ça me permet d'augmenter ma neuroergonomie dans le sens où, quand je me lève le matin, si je me dis, tiens, là, j'ai envie d'essayer de réfléchir sur tel sujet. Ok, ben je peux le faire. Ok, je peux trouver de la ressource sur mon téléphone en appelant Fanny, en appelant quelqu'un d'autre. Là, je me dis, tiens, j'ai un concept que j'ai envie de pousser, je vais l'écrire, je vais l'envoyer à quelqu'un, ça va rebondir. Et ça, concrètement, pour moi, c'est une forme de liberté, en fait. C'est pouvoir se dire, j'ai... en plus de ça, il y a le lien aussi avec l'intuition, avec le ressenti. Ouais. C'est là, je sens qu'aujourd'hui, j'ai envie d'aller creuser sur ces trucs. Et du coup... J'ai pas souvent la contrainte de temps ou d'obligation planning ou quoi que ce soit par rapport à un truc donné. Donc du coup, quand j'ai l'énergie de quelque chose ou l'intuition de quelque chose, boum, je me lance dedans, je teste. Je manque d'une ressource. Grâce à ce fonctionnement en réseau qu'on peut avoir, je peux aller trouver la ressource, demander à la personne si elle a du temps. Elle va pas être disponible, c'est pas grave, elle me donnera peut-être une autre personne, je rebondirai, boum boum, elle me donnera un bouquin, je lirai un bouquin. Et en fait, dans ma tête, plus ça va, plus ça peut circuler.
Et du coup, alors, si je pousse la logique, est-ce que la liberté dans nos sociétés françaises, etc., n'est pas un phénomène de distinction sociale ? Parce qu'effectivement, nous, ça marche, parce qu'on a du capital culturel quand même, on a du capital économique, on est dans un milieu qui est assez favorable, avec des ressources vives et des individus qui sont câblés et qui fonctionnent également pareil dans notre réseau, connecté au nôtre et connecté aux autres. Mais quand tu es dans une logique plus de précarité ou de survie, quand t'as pas forcément un capital culturel qui te permet de pouvoir réfléchir aux ressources que tu peux mobiliser et que tu peux activer, ou parfois t'as même pas de ressources, est-ce que cette liberté sur le modèle des indépendants, elle tient ?
Non, certainement pas.
Voilà.
Un peu la logique qu'il peut y avoir dans plein de concepts de fonctionnement cognitif ou même en permaculture ou quoi que ce soit. Il y a le soin de soi avant de pouvoir être dans la logique du soin des autres. Et tu peux pas, je pense pas que tu peux facilement réfléchir à des projets ou des concepts ou des idées ou de la curiosité ou de l'exploration si jamais t'es dans une phase où tu dors 2 heures par nuit parce que ton gosse il te laisse pas dormir, qu'en même temps t'as un boulot qui te prend 80 heures par semaine et où t'es obligé de manger des produits industriels qui te mettent dans le mal. Il suffit que je fasse une nuit blanche où je dors qu'une heure et après j'arrive plus à aligner une conversation comme celle d'aujourd'hui. Donc déjà ça c'est bloquant. Même le fait d'aligner tel type de conversation sur un podcast, il n'y a pas non plus tout le monde qui va se dire je vais écouter ça quoi. Ah non mais c'est pas forcément une évidence. Moi je considère que je suis vraiment privilégié, je suis très reconnaissant de la situation que j'ai actuellement et de connaître des gens qui sont aussi dans cette situation là et c'est pour ça que plus ça va plus mon intuition quand même me dit mec, quand tu te lèves le matin toi ça va quoi, donc du coup le temps que tu as utilise-le pour faire en sorte de rendre la vie des autres plus fluide. Et au-delà de ce que je disais au départ sur le fait qu'ils prendront soin de moi si jamais moi je tombe dans un cycle de déchéance, c'est que plus les autres ils ont une vie fluide autour, plus ça crée de la diversité, plus ça crée encore de la curiosité, ça crée du confort intellectuel, du confort physique, et ça transforme en fait l'existence en elle-même quoi. Et c'est pas une logique d'étendre une bulle, c'est plus une logique de propager cette liberté en fait. Et oui, Roger qui bosse 80 heures par semaine, il peut pas.
Bah c'est ça, et en fait la question qu'il y a derrière c'est de se dire effectivement on est en train de réinventer des cadres pour pouvoir collaborer, travailler et vivre de manière différente, mais au final on est en train de créer plus de distinctions sociales et on est en train d'imposer en quelque sorte ou de créer les contours d'un système de fonctionnement qui correspond à des personnes issues des professions culturelles, de la recherche ou des médias, parce que de toute façon on le voit dans les études, les gens qui vivent comme nous, qui ont ces modèles de réflexion qui sont dans nos réseaux sont des personnes qui ont 1, 2 ou 3 de ces caractéristiques et qui au final on est en train d'imposer avec toute notre bonne volonté un modèle de fonctionnement qui va amener encore plus de précarité et dans une illusion encore plus grande de la liberté les ouvriers en gros du 19e siècle.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Et ça c'est vraiment le principe Uber, plateforme, les créatifs qui pensent ces plateformes là, tu vois, en gros.
Oui, c'est exactement pour ça qu'en fait, je pense que c'est pas forcément une bonne chose de créer des bulles.
Oui. Alors qu'on fonctionne en bulle, non. Tant pour moi, hein.
Oui, non, mais bien sûr, mais sauf que, comment dire, moi, je ne crée pas quelque chose en disant rejoignez ma bulle.
Oui, mais parce que...
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne crée pas l'illusion de comme Uber, de dire c'est un modèle qui fonctionne, rejoignez ce modèle-là. Oui. Il crie sur les toits que être indépendant, du coup, c'est ce qu'il faut faire pour être libre, pour ci, pour là, pour ma main.
Vous avez des super campagnes de pub dans les abris bus, les métros, voilà. Avec des belles images.
C'est ça. Du coup, t'es trop classe si t'es indépendant, machin, c'est comme si t'es trop classe d'aller aux États-Unis pour trouver de l'or et compagnie, et puis au final, t'imposes des trucs aux gens. Donc là, moi, je ne déclare pas que ce modèle d'indépendant et efficace pour tout le monde, et même intéressant pour tout le monde, qu'il est supérieur ou qu'il est inférieur ou quoi que ce soit. C'est mon exploration.
D'accord.
Et je suis content de pouvoir partager cette exploration avec d'autres personnes. Et en partageant cette exploration, ça m'intéresse potentiellement de pouvoir créer de la liberté aux autres autour pour qu'eux-mêmes ils puissent faire leur exploration.
D'accord.
Et qu'eux-mêmes puissent définir leur propre modèle, leur propre fonctionnement. Parce que je pense qu'on a encore une dualité entre salarié entreprise et indépendant. Il commence à y avoir une petite granularité de diversité dans chacun des mondes. Mais je pense qu'il doit y avoir une diversité possible hallucinante. Il n'y a pas de limite à la manière dont le cerveau se structure. Il n'y a pas de limite à la connaissance, donc il n'y a pas de limite à la manière dont le cerveau se structure. Donc tout le monde peut se créer potentiellement son modèle. Mais il faut que les gens puissent être libres de pouvoir le faire. Donc ça veut dire que même si je suis complètement différent d'une personne qui est artisan ou d'une personne qui est ouvrier ou qui bosse dans des mines ou des trucs comme ça, à aucun moment je pense que je suis supérieur à cette personne ou quoi que ce soit. J'avoue, j'ai des biais des fois quand on en parle, mais ça on l'a tous souvent, de dire j'ai de la chance. Donc ça veut dire que tu définis que toi ta situation elle est quand même plus confortable. Donc si je caricature, c'est nous on a la chance d'être dans un château. Et puis on regarde en bas dans le champ et on voit des gens qui sont en train de galérer, tu vois. Peut-être que du coup, contrairement à avant, ceux qui étaient dans les châteaux, ils continuaient à les exploiter pour s'engraisser dans le château. Nous, on se dit, tiens, on les regarde et on a envie de faire en sorte qu'eux, ils puissent venir dans le château. Qui potentiellement, du coup, est un biais parce qu'ils n'ont peut-être pas envie de venir dans le château. Ils ont peut-être envie d'aller ailleurs, de monter une cabane en bois, de monter un truc qui est plaqué or. Ils ont envie de faire ce qu'ils veulent, en fait. Donc c'est plus en fait une logique de jardinage, en fait, de se dire voilà, il y a toute cette diversité d'humains. J'en reviens toujours à la permaculture.
Non, mais t'arrives à nous la placer de partout.
Mais ouais, je suis désolé. Et toi, tu te crées des modèles mentaux pour pouvoir communiquer, donc le langage est assez limitant. Mais voilà, tu t'es là et t'es à plusieurs en me disant bon, ok, on a du temps. Parce que ça, c'est les trucs où on sera toujours tous d'accord, c'est on a un corps, on a du temps, et il y a la dimension financière qui est encore présente. Bon, donc comment je peux faire en sorte pour que les autres aient du temps, que les autres aient de la liberté avec leur corps, donc bien manger, qu'ils puissent bouger comme ils ont envie ou quoi que ce soit, dormir aussi comme ils ont envie, et qu'ils aient l'argent qu'il faut pour explorer. Voilà, point barre. Et il n'y a que ces paramètres-là sur lesquels, à mon avis, il y a valeur à jouer, sans y plaquer de valeur, de principe ou quoi que ce soit, mais voilà, juste que les gens ils aient du temps, qu'ils aient de l'argent et qu'ils aient la liberté physique de pouvoir bouger où ils ont envie. C'est la base de la vie au final. C'est ce qu'on avait quand on était, si on en revient aux histoires des hommes préhistoriques, c'est ce qu'on avait et qu'on a perdu. Et du coup, c'est quand même fou d'avoir perdu quelque chose qu'on avait une époque où on a tendance à dénigrer en disant que c'était des hommes primitifs, alors qu'au final c'était peut-être pas si primitif que ça. On juge aussi en disant que c'était plus violent, plus ci, plus là, mais qu'est-ce qui dit qu'ils n'acceptaient pas pleinement cette violence et que du coup ils n'étaient pas vachement mieux dans ce système-là, tu vois, c'est...
Ah non, on n'en sait rien, c'est sûr.
C'est complexe, quoi. Je demande ta deuxième curiosité.
Tu vas te foutre de ma gueule. Ma deuxième curiosité, on y a un petit peu répondu parce que je ne perds jamais le nord ni le fil de ce que je raconte.
Bien entendu.
Donc en fait, c'était sur le lien technologie et croyance, le rapport de Dieu et de l'innovation. Donc en fait, je pense qu'on y a un petit peu répondu, mais voilà, c'était vraiment...
Si t'as un point en plus à apporter sur ce sujet-là, c'est intéressant. Parce que redescendons un peu parce qu'on est parti assez loin. Si on part, non, tu peux quand même. Déjà, c'est un gros pas certainement pour pas mal de monde, la logique de Dieu et croyance liée avec la technologie, tu vois. Non. Pour toi, c'est une évidence.
Oui.
Mais c'est pas forcément une question que tout le monde.
Alors, d'un point de vue anthropologique, ce qu'on observe sur le terrain, ça va être deux phénomènes. Ça va être le premier phénomène, c'est les institutions religieuses qui elles-mêmes vont se mettre dans des démarches d'innovation pour pouvoir s'adapter et du coup. Soit conserver leurs fidèles, soit pouvoir en capter de nouveaux. Par exemple, l'exemple que je donne souvent en ce moment, en plus qui est à Lyon, c'est des initiatives, des expériences qui ont visé à moderniser des rituels de foi, comme la prière numérique et dématérialisée, où on montre comment dans une institution religieuse où il y a des codes, où il y a des rituels, où tout est assez normé, la technologie permet d'apporter une autre vision à un phénomène, un rituel très ancien, et qui va permettre soit effectivement de capter une nouvelle cible, soit d'asseoir l'intérêt que les fidèles vont avoir pour la communauté. Donc ça, c'est ce que la religion judéo-chrétienne fait très bien, c'est comment on s'adapte aux phénomènes extérieurs pour pouvoir se diversifier. Pareil, je crois que c'était en 2016, j'avais participé à un congrès sur le lien entre numérique et croyance, et la conf introductive était faite par un homme d'église, je crois qu'il était prêtre, qui était un ancien d'HEC, et qui était arrivé en soutane et qui expliquait comment il avait mis en place un business model mais hyper performant pour pouvoir dynamiser sa paroisse, quel était le site internet, et il nous faisait une démonstration marketing digne d'un super grand truc d'inno, mais tout ça en soutane pour nous expliquer comment au final l'entité, le lieu qui était l'église, et ben on pouvait le transposer au modèle de fonctionnement de l'entreprise pour pouvoir jouer avec ces codes-là et du coup s'adapter à ce qui se fait actuellement. Donc là, c'est vraiment le premier thème, technologie et Dieu, la technologie au service de Dieu dans une institution qui existe déjà et qui a fait ses preuves. Et de l'autre côté, c'est de se dire comment l'impact de la technologie dans nos vies va avoir un impact sur notre manière de croire, sur notre manière de concevoir les dieux. Donc ça se voit de différents de différentes manières. D'un point de vue un petit peu intellectuel, on va voir tous les mouvements comme le transhumanisme ou les chimpanzés du futur qui sont en train de s'interroger sur la place de l'homme dans l'univers et dans notre société avec l'arrivée de cette technologie-là. Donc on a les transhumanistes qui vont dire, pour simplifier, que la technologie va permettre une extension de soi et effectivement que l'individu atteigne un nouveau stade et où au final on sera peut-être tous un petit peu des dieux. Mais si l'humain devient lui-même créateur et n'est plus seulement la créature et qu'il n'a plus rien au-dessus de lui comme ce qui lui a permis de vivre pendant des millénaires, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus rien au-dessus de nous? Est-ce que du coup tout est permis ou alors est-ce qu'on est en perte de repère et on devra se créer de nouvelles croyances? Ça, c'est la première chose. Et le deuxième mouvement qu'on voit apparaître, c'est des religions où les dieux seraient des figures de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a d'autres professionnels qui étaient dans la Silicon Valley, qui ont travaillé sur les grandes entreprises plateformes comme Uber, etc., qui disent qu'effectivement, ce qui est en train d'arriver, ce qu'on est en train de créer sans anticiper la finalité de la dynamique qu'on a amorcée, elle ne sera peut-être pas trop sympa, et qu'à un moment donné, ces figures de robots humanoïdes, ces figures d'intelligence artificielle vont prendre le pas sur nous, vont arriver à reconstruire des émotions et seront les nouveaux dieux. Donc autant commencer à les aduler dès maintenant, avant qu'ils prennent le contrôle sur nous. Donc effectivement, on voit que Dieu et technologie, en fait, loin d'être antinomiques, ils sont en train de nous construire une nouvelle réalité, un nouvel espace de liberté qui est en train d'être négocié pour l'instant par les parties prenantes. Et c'est de se dire, bon, bah, est-ce que les gens ont conscience de ça? Ou à l'inverse, quelle place nous, on veut donner à Dieu, la technologie dans nos vies? Et comment la propre spiritualité qu'on peut avoir va avoir un impact ou non sur les modèles qu'on est en train de construire, économiques ou professionnels, qui, par extension, vont conduire soit à faire de nous un créateur, soit à faire de nous une bête encore plus asservie et lobotomisée qu'avant, quoi.
Ouais, intéressant. ça m'a touché sur ce que tu disais par rapport à l'intelligence artificielle, en fait, qui devient un dieu. C'est intéressant de voir quand même qu'on part du postulat très croyance scientifique que par le développement neuronal artificiel, il va y avoir un développement d'une forme de
conscience,
ressenti, de la machine, d'intuition, d'émotion.
Ouais.
Donc on part vraiment dans le sens où c'est le cerveau qui génère des trucs.
Oui.
On n'est pas du tout dans la croyance que le cerveau est plutôt un capteur de quelque chose d'autre.
Mais à côté de ça, ce qu'on voit dans toutes les sociétés, des plus anciennes aux plus modernes, c'est que les individus ont toujours eu cette volonté de vouloir faire exister leur dieu. Que ce soit sur les tablettes sumériennes, que ce soit en Égypte ancienne, que ce soit dans les théories plus de la pop culture et dans les mouvements cyberpunk ou post-cyberpunk, il y a toujours eu cette croyance de se dire effectivement, Dieu n'est peut-être pas une entité intangible ou quelque chose qui nous dépasse, c'est peut-être des gens qui ont vraiment existé, qui étaient là avant nous, qui venaient d'ailleurs et qui sont venus ici pour mettre la vie. Et au final, en fait, l'intelligence artificielle, ça arrive comme un super mythe de la modernité où on a une occasion en or, d'un point de vue pour le coup anthropologique, de faire exister ces dieux et de se dire que d'un côté on les a créés et en plus on sait qui ils sont. C'est pas des gens qui étaient là il y a 3 milliards d'années avant nous, ils sont bien là. Et du coup, ça répond à un des fantasmes et un des mythes les plus anciens de l'humanité. Du coup, c'est pour ça qu'effectivement, faut pas. Il y a toujours des biais, que ce soit cognitif, que ce soit neurologique, dans la manière de concevoir une entité qui nous dépasse. Mais l'intelligence artificielle, elle a le mérite de rendre réels ces dieux qu'on veut faire exister, quoi.
Non, puis comme oui, bien sûr. Et si je continue sur ce que je disais lié à tout ça, c'est va y arriver un moment où soit en effet, elle va arriver à se générer. On ne sera pas dans son corps, mais on va arriver à se générer ses propres émotions, ses propres ressentis, et du coup devenir une forme de conscience. Soit en fait, elle ne pourra pas le faire, parce qu'il lui manquera le lien avec quelque chose qui est beaucoup plus tangible, comme ce que nous, on a au niveau de notre ressenti ou de nos intuitions.
Il lui manquera le sensible, en fait.
Il lui manquera le sensible. Et là, à ce moment-là, ça sera potentiellement une bascule. On se dira, ah bah tiens, elle a réussi. Ah bah du coup, en fait, ok, d'accord, donc on n'est que du mental, et tout est généré par notre cerveau, et ok, d'accord, tout est très scientifique, la vie est scientifique, et puis voilà. Ou sinon, ça sera beaucoup plus large, et beaucoup plus... Après, voilà, ça dépend des aspirations de chacun. Oui. Moi, je suis plutôt du deuxième bord, comme tu le sais bien. Mais, parce que c'est plus joli, l'histoire, quoi. Ok, bon bah écoute, nous avons fait 1h16, Fanny. Merci pour cette conversation. Est-ce que tu as un dernier mot ou est-ce que tu es pressée de partir? Il est temps que tu nous quittes.
Un dernier mot. Bah, déjà, je te remercie pour cette discussion hyper riche et qui a permis d'aborder sur un sujet en apparence simple et assez ordinaire, en fait, différentes strates de la vision et de la réalité qu'on peut avoir. Je m'excuse d'avoir un peu posé des questions parce que c'est le
déformement professionnel. Non, mais ça va, c'est le jeu. On inverse. C'est d'impro, donc on laisse tourner.
Je suis désolée. Et non, si j'avais un mot à dire, c'est que je trouve qu'on vit quand même une époque qui est formidable parce que on a un rapport à la spiritualité qui est nouveau. On s'autorise enfin à conscientiser des choses qu'on avait mis sous le tapis en Occident depuis quelques centaines d'années. Et en tant qu'anthropologue, et ben, je trouve que c'est merveilleux d'étudier ce rapport à la croyance, à la technologie, à la consommation et de le vivre en même temps parce que si je devais retenir un truc des échanges et de ce que je voulais faire passer, c'est qu'effectivement faire de l'anthropologie, c'est étudier les modèles de fonctionnement humain, les sociétés, etc. Ça, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier qu'on reste aussi un être humain et qu'on est partie prenante du système qu'on étudie. Et on a parlé de différents scissions dans le modèle des freelances entre ceux qui prennent des commissions, ceux qui ne prennent pas des commissions, ceux qui acceptent d'être en mode projet et de créer pour créer et pas forcément créer pour facturer. Et il y a aussi une autre scission en anthropologie entre ceux qui ont une vision un petit peu d'en haut et qui pensent observer de manière neutre une société souvent éloignée et qui pensent bien le faire, alors que si on regarde il y a plein de biais mentaux et de schémas qui ne sont pas hyper sympas et qui sont un peu contre-intuitifs avec le discours ou la volonté initiale. Et il y a d'autres chercheurs dont je fais partie, mais je ne suis pas la seule, qui se disent qu'effectivement on est le fruit d'un système, et si on arrive à faire des analyses qui ne sont pas trop dégueux sur certains sujets, c'est parce qu'on accepte d'être aussi imbriqué dans le système qu'on étudie, et on va avoir d'autres réflexions épistémologiques, de postures méthodologiques, mais au final on arrête d'être un scientifique un petit peu hors de la société avec le regard du dessus. On accepte d'avoir un impact sur cette société et on en joue même pour pouvoir faire un peu bouger les choses. Donc voilà.
Parfait, faisons bouger les choses.
Merci beaucoup.
Merci Fanny, à très bientôt.
Et voilà, encore un bel épisode avec Fanny. Moi, en tout cas, j'ai passé un super moment. J'ai exploré beaucoup de choses qui au final était à l'intérieur de moi-même, vu qu'elle a posé énormément de questions, comme quoi les déformations professionnelles sont assez intéressantes. Dans certains métiers, on a tendance à devoir beaucoup présenter des choses qui viennent de nous-mêmes ou des recherches qu'on a pu faire, et dans d'autres métiers, eh ben, c'est de poser des questions aux autres. Et des fois, on se fait surprendre. Moi, mon métier, c'est de poser des questions aussi, et là, je me suis fait avoir. Merci Fanny encore, en tout cas, par rapport à tout ça. Ça m'a permis d'explorer, et j'espère que ça t'a, toi aussi, apporté des billes dans ta propre réflexion. En tous les cas, comme vous avez pu voir, l'anthropologie permet d'avoir des réponses assez rapides sur d'où on vient et de pouvoir comprendre aussi où on va. Comme quoi, aussi, dans la vie, tout fonctionne par cycle, que la liberté n'est pas quelque chose qui est si évident que ça, que la diversité des points de vue permet de gagner en tolérance, mais en même temps, permet aussi de complexifier les choses, parce qu'il faut être capable d'accepter que tout est différent. Et puis, citation que j'ai eue récemment, que j'ai bien aimée, c'était de se dire que la réalité est un miroir et que chaque personne porte un petit bout de ce miroir cassé. Et le but du jeu, c'est d'arriver à reconstituer le miroir tous ensemble. Voilà, c'était pour un petit moment en poésie. J'espère que vous avez passé un excellent moment. Moi, je me suis bien amusé, comme à chaque fois. Rendez-vous au prochain épisode. En attendant, bien entendu, je vous invite à continuer à m'écouter, même si c'est la fin du podcast, pour aller faire un tour sur iTunes, sur Spotify ou sur les autres supports qui vous ont permis d'écouter cet épisode. Allez mettre quelques étoiles. Non pas que j'ai envie de devenir une superstar mondiale du podcast, mais simplement que si jamais il n'y a pas 5 étoiles avec des bons commentaires, ça ne remonte tout simplement pas et ça n'est pas à disposition des personnes. Et vu que les gens que j'essaye d'interviewer sont censés être des gens qui sont très inspirants, géniaux et plein de curiosité, eh ben, j'espère que les autres curieux qui cherchent ces gens-là puissent les rencontrer et les trouver. Voilà, si jamais vous avez des personnes à me proposer, n'hésitez pas non plus, je suis complètement ouvert à aller même discuter avec des personnes que je ne connais pas, c'est le but. Plus on aura de diversité, encore une fois, et plus on pourra laisser voyager la curiosité. Pareil, si jamais vous voulez me rencontrer, le café est toujours offert. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite cependant une belle semaine, un beau mois, une belle fin d'année, plein de joie, plein de bonheur dans vos fêtes, la famille, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, allez, j'arrête. Bonne continuation à tous et on se retrouve en 2019. Bonne fête à tous!